Installer pour qu'on puisse commencer cette journée qui, si vous avez vu le programme, est bien chargée. Alors, pour commencer tout de suite, je vais d'abord faire une annonce. Il y a quelqu'un qui s'appelle Magali Raymond qui a perdu son agenda. Donc, si elle veut continuer à travailler, l'agenda est là. Voilà. Et je vais tout de suite passer la parole à Guy Rouvert, qui représente Renzo Sully, le maire des Chirolles, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui.
Bien, mesdames, messieurs, en vous saluant, je voudrais également saluer M. José Arias, vice-président du Conseil général, saluer M. Romier, le président de l'UFTS, saluer Chantal Cornier, directrice de l'UFTS et par ailleurs adjointe à la ville des Chirolles en charge de toutes les questions culturelles. Vous saluez, mesdames, messieurs, et simplement vous dire, comme ça, ma première idée, c'était de se dire, après tout, il y a une espèce de persévérance, on va dire ça comme ça, à fréquenter la ville des Chirolles, ce qui est très bien, et à fréquenter y compris ce lieu, puisque je crois que ça doit faire le 12e rendez-vous de l'IFTS, y compris dans ces locaux. Et comme disait M. Romier, je crois qu'effectivement, je crois ne pas avoir raté une seule de ces journées d'études de l'IFTS. Et c'est donc pour moi, mais également au nom de la ville des Chirolles et au nom de Renzo Sully, maire des Chirolles, premier vice-président de la métro, qui ne peut être présent. Il est à l'extérieur en ce moment. Pour être très clair, il est au Bénin, puisque nous avons un jumelage coopération avec une ville du Bénin depuis là aussi de très très nombreuses années, et le maire a souhaité se rendre sur place de façon à bien étayer nos collaborations en termes de jumelage coopération. Donc excusez le maire de Chirolles et vous remercier pour votre présence si nombreuse. Alors je sais que c'est une journée d'études qui est consacrée cette année à l'intervention sociale et au partage d'informations. Je crois que l'année dernière, nous étions sur la question de la psychiatrie, du travail social et de la psychiatrie. Et dans la présentation de la réflexion qui fonde la construction de cette journée par les organisateurs, il est cité à juste titre le caractère de plus en plus complexe de l'intervention sociale et la multiplicité des acteurs impliqués. Et il est vrai que cette question est au centre de vos pratiques professionnelles et de votre déontologie de travailleurs sociaux et de cadre de l'action sociale. J'aurai pour ma part, au cours de cette très brève intervention, le souci de resituer le contexte dans lequel cette question se pose. Elle est en effet au cœur des nouvelles et des dernières dispositions législatives que sont la loi sur la prévention de la délinquance et celle sur la protection de l'enfance. Au cœur également d'une nouvelle approche des problématiques sociales, au cœur de nouvelles pratiques et d'attentes de la société vis-à-vis des professionnels, et au cœur également d'une évolution incontournable vers du partenariat et du travail en réseau. Mais elle est également au cœur d'un débat fondamental de société. Nous avons tous pu constater, en tant que citoyens, la médiatisation des récentes affaires de maltraitance à l'enfant et l'aspiration de nos sociétés modernes à revendiquer le droit de savoir. Le principe de précaution, le désir de transparence, l'efficacité, voire l'efficience des dispositifs de recueil et des traitements de l'information semblent justifier et étayer la légitimité de la levée des secrets professionnels. Pour autant, le secret relève du droit, il fonde la relation du professionnel avec la personne, il facilite la confiance nécessaire à la révélation, garantissant un respect à la vie privée, mais il cristallise souvent les rapports entre les travailleurs sociaux et les institutions. Il devient alors enjeu de positionnement, enjeu d'identité. De nombreux dispositifs sociaux relèvent aujourd'hui du partenariat et du travail entre réseaux ou en réseau, et nul n'en conteste la nécessité et l'efficience. La question des échanges n'est pour sa part pas nouvelle. Ce n'est pas une question nouvelle entre professionnels du champ social et pose d'une manière récurrente la question du secret partagé. Et les nouvelles nécessités de l'action sociale font qu'une institution ne peut plus régler seule la problématique de certaines situations. La possibilité d'échanger des informations dans certaines et sous certaines conditions pourrait améliorer l'analyse des situations. Mais il faut être prudent afin d'éviter des dérives qui pourraient être préjudiciables aux droits des familles sous couvert d'un devoir d'ingérence pour protéger les enfants en danger, tant en matière de maltraitance qu'en matière de délinquance. Nous sommes donc face à des enjeux contradictoires, car il paraît en effet évident de pouvoir partager un diagnostic social pour étayer des politiques et des stratégies d'action sociale au plus près des besoins. Pour autant, nous devons tous convenir que cela ne peut se faire au détriment des personnes et que cela implique une épidémiologie du social. Les nouveaux outils et les nouvelles technologies qui conduisent à une informatisation des dossiers sociaux et à une traçabilité du parcours des personnes dans le domaine des soins notamment, nous obligent également à de la vigilance. Malgré tout, dans le contexte d'une pensée sécuritaire, où l'on a vu fleurir des projets ou des dispositifs de recueil d'informations multiples, je pense au fichier Edvige, je pense également au fichier base élève contre lequel se mobilisent de nombreux enseignants et de nombreux élus, le projet de dispositif de prévention précoce qui a mené à la mobilisation pas de zéro de conduite pour les enfants de moins de 3 ans, toute absence de précaution fait courir le risque d'une menace sur les libertés publiques et les libertés individuelles. Le partage d'informations est donc indispensable, mais il ne peut se réduire à une double injonction pour le professionnel, celle de se taire ou celle de parler. Il est rendu nécessaire dans l'intérêt de l'usager pour faire évoluer sa situation. Je pense notamment à la question des attributions des aides ou des démarches administratives diverses et complexes. Mais tout n'est pas à dire et tout n'est pas à partager. Il faut donc s'interroger sur le cadre et sur les contenus de ce partage, car même si le travailleur social a des responsabilités, qu'il est le seul à assumer, il appartient également à une institution soumise à des orientations issues de la loi, mais aussi à la politique des élus. Comment, dans ce contexte, avancer ? Avancer sur le principe d'échange d'informations raisonnées, encadrées et respectueux des missions de chacun et des libertés individuelles. Avancer sur la distinction du rôle respectif des politiques qui définissent les orientations au sein des instances de pilotage et celui des professionnels que vous êtes, qui seuls peuvent être amenés à échanger des informations sur des problématiques précises. Pour cela, des espaces de réflexion et d'élaboration tels que celui que vous proposez aujourd'hui, ces espaces sont fondamentaux. Je vous souhaite donc une bonne journée de réflexion.
Je passe maintenant la parole à Guy Romier, qui est le président de l'Association pour le développement de l'IFTS.
J'ai le plaisir de vous accueillir avec une assistance particulièrement nombreuse et sans doute remarquable d'ailleurs aussi aujourd'hui. C'est vrai que cela fait déjà un nombre de fois conséquent que nous réunissons cette journée d'études annuelles avec une grande persévérance, mais c'est certainement la première fois que je vois une salle aussi remplie, même si les fois précédentes l'assistance était déjà très significative. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier à travers M. Rouvert la ville d'Échirolles pour le fait qu'elle met à disposition cette belle salle, mais aussi parce que dans les temps qui courent, elle nous soutient dans les projets de l'IFTS d'agrandissement de ses locaux. Donc je crois que c'est un point tout à fait important. Et puis, je profite de la présence du vice-président José Arias, qui nous a accompagnés depuis quelques années, pour remercier aussi vivement le Conseil général du fait que si l'IFTS existe encore, on lui doit certainement beaucoup de choses, et particulièrement à José Arias et à quelques-uns de ses collaborateurs. Je pourrais reprendre un peu pas mal des choses qu'a dit M. Rouvert en ouverture. Il y a quelques années, comme je me trouve être au contact de l'informatique, des systèmes d'information et de l'informatisation, le Conseil supérieur du travail social m'a demandé d'animer un groupe de travail sur nouvelles technologies et travail social. J'ai d'ailleurs eu le plaisir pendant 3 ans de travailler de façon régulière avec Françoise Reynaud, qui anime actuellement le secteur au Conseil général, et elle est co-signataire avec moi des travaux que nous avions alors produits. J'avais été surpris en débarquant dans ce milieu que je connaissais pas directement, de voir à quel point le mot de partage d'informations, voire d'information, et encore plus bien sûr d'informatisation, apparaissait quasiment comme un gros mot. Même si, il est évident, la pratique quotidienne des travailleurs sociaux et des équipes faisait une large place au travail de type collaboratif. Mais néanmoins, on sentait une angoisse par rapport à cette question. Je n'ai pas le sentiment que la question ait fondamentalement évolué depuis ces années dont j'ai oublié la date, 7 ou 8 ans par là. C'est vrai que, comme le disait M. Rouvert, vous êtes pris dans une contradiction. À la fois le secret professionnel, qui est une nécessité pour le respect de l'intimité des individus ou des familles ou des groupes auxquels vous avez affaire, et en même temps, comme l'évoque d'ailleurs la deuxième table ronde, celle de cet après-midi, la première de cet après-midi, le fait que dans la pratique, le partage d'informations est quand même quelque chose de fondamentalement intéressant, nécessaire, utile, et que vous ne pouvez pas y échapper. Alors la loi a tenté, et j'ai vu que vous y consacriez 2 séances, la loi a tenté de sessions, une intervention de Chantal Cornier et puis une table ronde, a tenté de définir les cadres dans lesquels ces démarches doivent s'exercer. Un peu de façon extérieure, je dirais que à la fois ces cadres et ces lois sont nécessaires, et en même temps, il ne faut pas que ce soit de façon excessive une manière pour le travailleur social de se protéger, de se replier sur lui-même. Il faut donc arriver à trouver cet équilibre dont parlait M. Rouvert il y a un instant. Ceci étant, ce n'est pas un problème qui ne concerne que les travailleurs sociaux. Les enseignants, et tout autant, voire plus encore, le personnel soignant, sont confrontés de façon permanente à cette question. Et avec les mêmes problèmes et les mêmes soucis que vous. C'est très transparent dans le milieu soignant. Et là, pour le coup, il arrive que le secret professionnel soit effectivement, pour un certain nombre de médecins, une forme de protection d'eux-mêmes, plus que des personnes qu'ils soignent. Et le danger existe de façon évidente. C'est vrai aussi pour les enseignants. Il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand ont été construites les villes neuves de Grenoble et des Chirolles, à une époque où le monde n'était pas encore mangé par la gestion, mais essayait de réfléchir à son développement, l'un des soucis des fondateurs était de faire travailler ensemble les acteurs du champ social, les enseignants, les éducateurs et les médecins et soignants. Ce fut à l'époque un débat qui fut un débat difficile. Je ne sais où on en est aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup régressé sur cette question-là. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage que cette dimension ait été mangée. À l'opposé, vous êtes confronté effectivement à une pression constante, et je ne veux pas stigmatiser les collectivités locales. Elles ont leur fonction et leur rôle, en particulier de gestion et de responsabilité des deniers publics. Mais vous êtes confronté en permanence à une pression, c'était d'ailleurs ce qui avait justifié ce travail du Conseil supérieur du travail social, à une pression pour des systèmes d'information, pour des évaluations, pour examiner quelle est l'efficacité des moyens qui sont mis en œuvre, et je pense qu'on ne peut pas échapper à cette question. Et ça pousse, et d'ailleurs je crois que c'est bien évoqué dans les 2 dernières interventions de cet après-midi, celle sur le partage d'informations et une nécessité, et la dernière intervention, celle de M. Romain, sur la place de l'évaluation et de l'information dans notre société aujourd'hui. mais en même temps, combien de dérives. Et M. Rouvert a évoqué Bazelève ou Edwige. Et je crois que Bazelève est peut-être aujourd'hui un des problèmes les plus centraux, parce qu'à la fois, il y a la nécessité d'une meilleure connaissance, mais en même temps, c'est vrai qu'on a glissé très vite à la stigmatisation, à des utilisations qui sont des utilisations incontrôlées. Donc c'est vrai que la réflexion sur ce terrain est une réflexion extrêmement importante. Soyez-y attentifs. Je vous ai demandé dans un premier temps de ne pas vous protéger, mais dans un deuxième temps, je vous demanderai d'être attentifs. Et d'un certain point de vue, c'est la même chose. Car quand on se protège trop soi-même, on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Je suis intervenu il y a 2 mois devant les assistants sociaux d'un conseil général d'un département que je ne dirais pas voisin, parce qu'il y en a 2-3 entre nous, entre vous, sur le thème des systèmes d'information. Et quelle ne fut ma surprise quand j'ai découvert que pratiquement personne dans la salle ne connaissait Bazelève. C'est-à-dire qu'à la fois, ces assistants sociaux, généralement assistantes d'ailleurs, se défendaient des injonctions de leur conseil général, mais en même temps, ignoraient ce qui se passait, d'ailleurs dans le même département, sur Bazelève. Et je crois que là-dessus, c'est une leçon qu'il nous faut retenir. Donc je dirais qu'à quel point, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais il se trouve que vous avez réveillé mon passé. C'est des choses toujours dangereuses, de cette façon-là. Et je voulais vous donner ces quelques éléments. Donc vous allez approfondir tout ça. Je voudrais me réjouir aussi que cette journée d'études a été construite en collaboration avec la coordination de l'action sociale du Conseil général, mais j'ai déjà dit quels étaient mes liens dans ce domaine. Avec l'IUT2, il se trouve que je suis l'ancien président d'université qui a l'IUT2, le département carrière sociale en son sein, donc je ne peux que me réjouir, même si j'ai, comme je le disais l'autre jour, changé de camp, je ne peux que me réjouir du travail en commun, et avec de nombreux professionnels qui ont participé à la préparation des tables rondes, et puis avec les étudiants qui participent aussi abondamment à tout ce travail. Donc je vous souhaite un bon travail et je terminerai sur une idée qui avait été peut-être l'une des idées de la conclusion de nos rapports à l'époque, c'est que finalement, à la fois, il faut des garde-fous et notamment des garde-fous légaux, mais la loi n'est souvent que la traduction des rapports de force, mais que c'est aussi profondément dans le travail collectif et l'analyse de la pratique que vous trouverez les solutions à vos problèmes quotidiens. Merci.
Alors je donne maintenant la parole à José Arias, qui est vice-président du Conseil général.
Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est difficile d'intervenir alors que je travaille régulièrement avec Guy Rouvert sur les affaires sociales, donc il m'a piqué une partie de mon texte. C'est difficile aussi d'intervenir après Guy Romier, qui effectivement excelle dans la pédagogie, mais une pédagogie fondée sur des convictions et puis sur des analyses qui sont très importantes. Moi, ce que je voudrais dire à ce stade des débats, c'est d'abord me féliciter d'avoir, avec un certain nombre de nos collaborateurs au Conseil général, maintenu une coordination d'action sociale qui va au-delà de la simple institution départementale. Je crois que la capacité que vous avez à retrouver régulièrement travailleurs sociaux de tout horizon pour de telles journées, nous le devons aussi au travail qui était fait dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le CLICO, c'est maintenant qu'on appelle la coordination d'action sociale. Me reféliciter aussi avec d'autres, avec beaucoup de satisfaction, de voir que l'IFTS, qui a failli disparaître dans les années 2002-2003, eh bien, est un élément, je dirais, indispensable à la continuité du travail social à travers la problématique de la formation, de la réflexion et de l'évaluation. Et puis à partir de là, bien entendu, se poser la question de quels outils on peut encore mettre en place pour faire en sorte que les travailleurs sociaux, aujourd'hui, ne soient pas obligés, comme le disait Guy Romier, de parfois utiliser des réalités ou de la déontologie pour pouvoir se protéger. Parce que c'est vrai, parfois on se préserve de par sa déontologie, parce que la pression est trop forte par rapport à ce nombre de choses. Et notamment sur toutes ces problématiques concernant le secret professionnel ou le secret partagé. Secret partagé, lorsqu'un secret est partagé par deux personnes, c'est plus un secret. Donc tout ceci est quand même lié à un environnement politique et une modification, une mutation de société qui ne date pas uniquement d'aujourd'hui. Je crois qu'en instaurant la paix sociale à une époque, en 1988, avec le revenu minimum d'insertion, nous avions commencé à mettre en œuvre un processus de relation entre le travailleur social et la population qui était différent de celui que nous partagions à une certaine époque et qui consistait, en prenant en compte un certain nombre de grands principes défendus dans une époque difficile, et qui aboutit au programme du Conseil national de la résistance, lorsque les travailleurs sociaux, jusqu'à les années 80, mettaient en œuvre un certain nombre de choses. C'était dans une problématique d'ascenseur social ou de promotion sociale. Aujourd'hui, malheureusement, on leur demande beaucoup en matière de paix sociale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voudrait, avec eux, si on n'y prend pas garde, essayer de faire en sorte qu'à travers le diagnostic partagé qui est nécessaire, mais aussi à travers la connaissance des situations, certains se posent la question de savoir à partir de là comment on peut mieux réprimer. Problématique de la loi Sarkozy. D'autres se posent la question du fondement des politiques familiales. C'est la loi Philippe Bas, je ne les mets pas dans le même sac, mais toujours est-il qu'elle démontre, ces deux lois, toute la complexité du débat aujourd'hui sur le rapport que les travailleurs sociaux peuvent avoir avec les individus, toutes les problématiques aussi qu'ont les individus aujourd'hui avec la société. Au mois de juin, vous allez d'ailleurs commencer à entendre en parler dès le mois prochain, du revenu de solidarité active. C'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans une continuité avec le RMI qui pose véritablement le fondement de notre société. Demain, un certain nombre de nos concitoyens vivront avec un salaire partiel complété par des aides de l'État. Et ceci dans une durée, puisque dans le RSA, il n'y a pas la problématique insertion inscrite, dans une durée qui peut durer énormément. Alors, imaginez dans une montée d'escalier, vous qui connaissez bien le terrain, imaginez dans une montée d'escalier comment vont vivre les gens, comment vont vivre les enfants selon leur statut de leurs parents. Je pense que nous avons là devant nous un terrible enjeu qui est de savoir comment, dans notre territoire, nous allons d'un côté avoir des salariés qui seront autonomes de par leur bulletin de paye, de par leur travail, et qui a fondé notre société jusqu'à aujourd'hui, et une part de la population qui sera moitié travail, moitié minima sociaux. Vous allez avoir beaucoup de secrets, me semble-t-il, à partager avec des gens qui risquent d'être dans un désarroi de plus en plus important, parce que, bien entendu, à côté de la problématique revenu de solidarité active, se posent toutes les problématiques que vous connaissez aujourd'hui sur le surendettement, sur les problèmes d'accompagnement au logement social, etc. Donc certes, aujourd'hui, pour essayer de dépasser cette situation, les institutions, selon comment elles sont dirigées, ont envie de trouver des solutions. C'est le cas du Conseil général. On voudrait, à partir des situations, faire évoluer nos politiques. Encore faut-il, effectivement, que l'on ne soit pas, à travers le partage du diagnostic, comme disait Guy, que l'on soit en mesure de proposer des évolutions aux politiques qui nous sont proposées sur un plan national. Et pour cela, il est vrai, il est important que nous soyons dans un dialogue avec les travailleurs sociaux, non pas pour partager des secrets liés à la déontologie du travail social, liés à la personne que vous rencontrez, mais liés aux situations. liées aux situations que vous pouvez évoquer et à partir desquelles nous pourrions effectivement, au-delà de tout ce qui peut être dit dans le travail entre vous, nous pourrions aussi faire en sorte que sur le plan politique, nous soyons capables de partager un diagnostic, d'évaluer une situation et être en mesure aussi de vous proposer peut-être un cadre de travail différent qui ne soit pas celui de l'urgence ni de la paix sociale, mais qui soit, si possible, celui de la prévention avec des réponses qui soient des réponses de société, qui ne nous inscrivent pas dans une démarche totale de précarité, mais qui nous inscrivent totalement dans le retour nécessaire de ce qu'on appelle la promotion sociale. Voilà, pour toutes ces raisons, je crois que les débats d'aujourd'hui sont très importants. En tous les cas, soyez assurés qu'avec la coordination de l'action sociale, avec les collaborateurs qui sont là, nous serons très attentifs au débat qui s'instaurera de manière à en faire un élément de notre politique sociale dans ce département. Merci pour vos travaux.
Merci pour vos interventions d'accueil. Je sais que vous allez rester un moment parmi nous, mais qu'après, vous avez une commission locale d'insertion qui va traiter de la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Donc, vous nous quitterez dans la foulée. Peut-être quelques mots par rapport à l'organisation matérielle de cette journée. Vous avez tout d'abord un dossier un peu plus léger pour les étudiants, parce qu'on essaye d'économiser le papier. Et... il y a monsieur l'élu, votre cartable, qui se promène. vous avez dans le dossier la liste des restaurants pour vous substanter à midi. Enfin, ça sera, je pense, plutôt midi et demi. Et puis, on se retrouve à 14h pour passer un grand moment cet après-midi avec Joël Roman, mais qui est parmi nous toute la journée. Ensuite, je voudrais remercier, vous voyez dans le dossier, tous les étudiants et tous les professionnels qui ont participé à la préparation de cette journée. Préparation qui a mobilisé beaucoup de monde et tout le monde ne parlera pas, tout le monde ne sera pas sur la scène, on ne va pas donner le nom de tout le monde. Donc vous l'avez dans le dossier, je voudrais sincèrement les remercier. Remercier les étudiants dont certains vont faire un exercice qui n'est pas forcément facile pour eux, mais qui est très formateur, puisque de leur place, hein, de travailleurs sociaux en formation, ils vont nous dire ce qu'ils ont à nous dire sur ce sujet. Hein, donc, parole d'étudiant, la parole est libre. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'était remercier toute l'équipe des formateurs et des professionnels de l'IFTS qui se sont beaucoup mobilisés pour organiser cette journée. Alors, vous avez aussi dans le dossier quelques éléments d'articles. Vous avez une bibliographie, mais qui sera prochainement sur Internet avec des résumés plus précis des ouvrages, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, vous avez un support pour mon intervention, parce qu'on m'a chargé de faire la partie, comment on va dire, la moins drôle, c'est pas que la journée soit drôle, mais disons que la partie un peu ardue de cette journée, qui est d'essayer de donner des points de repérage juridiques. Donc, je remercie Frédéric Lalot, parce qu'on a décidé de parler à une voix, mais elle m'a beaucoup aidée avec son regard de juriste pointu dans la préparation de cette intervention. Dernier point, on a choisi volontairement aujourd'hui de ne pas traiter de la question de l'informatisation et des systèmes d'information. Parce que traiter cette question-là aujourd'hui allait nous emmener dans quelque chose de trop complexe. Alors le choix qu'on a fait, et on continuera avec la coordination de l'action sociale, c'est de dire, aujourd'hui, on va traiter les questions juridiques, les questions de la pratique professionnelle et de toutes ces questions autour de l'éthique et de la déontologie. Et on va, à l'automne 2009, on est en 2009, voilà, c'est ça. À l'automne 2009, on propose de faire plutôt peut-être une demi-journée ou une conférence, enfin, rien n'est encore arrêté, où on traitera principalement de cette question en focalisant sur la question des technologies de l'information. Voilà. Alors, je vais commencer par une annonce qu'on m'a donnée là ce matin, qui est parue dans Télérama, pour une commune que je ne citerai pas et qui recherche un assistant social du personnel. Alors, je ne vous lis pas l'ensemble de l'appel d'offres. Vous allez dans Télérama du 4 février 2009 si vous voulez postuler. Et c'est fini. Ça se termine par polyvalent, autonome. Vous êtes rigoureux et respectez le secret professionnel. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que le secret professionnel qui est lié à la profession d'assistant de service social, parce qu'après, je vous détaillerai tout ça. Donc, de fait, un assistant de service social est soumis au secret professionnel. C'est le code pénal et le code de l'action sociale et des familles. Pour moi, c'est un signe qu'on soit obligé de mettre dans une annonce qu'on embauche un assistant de service social qui respecte le secret professionnel. Voilà, c'était en guise d'introduction. On pourrait en trouver d'autres comme ça. Alors, sur l'intervention de cette matinée, vous avez un résumé support dans votre dossier parce que je ne peux pas vous lire les articles du code pénal, ça serait fastidieux. Donc, je vous propose de suivre en même temps. Et puis, vous retrouverez l'ensemble de l'intervention de Joël Roman, de la mienne. Vous retrouverez et la bibliographie sur Internet par écrit, et nous allons essayer de mettre aussi un lien audio pour que vous puissiez réentendre cette journée ou des éléments de cette journée que vous souhaiteriez réécouter. Alors, historiquement, la question de la relation au secret professionnel, elle a été énormément posée dans le cadre de la protection de l'enfance. Alors, comme l'a dit Guy, aujourd'hui, entre la multiplication des intervenants, la nécessité du travail d'équipe, la nécessité du partenariat, c'est vrai que cette question du partage d'informations, elle a pris un poids bien au-delà du secteur de la protection de l'enfance, et elle a pris ce poids-là parce que plus personne aujourd'hui ne peut travailler seul si l'on veut construire les réponses les mieux adaptées aux situations, mais principalement aux personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité sociale ou qui rencontrent un certain nombre de difficultés. L'échange d'informations couvert par le secret professionnel, on va le voir, est par définition interdit. Ça, c'est le code pénal. Et ce sont les lois de 2007. Alors, ça fait 2 ans aujourd'hui. Nous fêtons l'anniversaire. Nous avons fêté la semaine dernière, début mars, l'anniversaire de 2 textes, la loi qui réforme la protection de l'enfance et la loi qui est relative à la protection de la délinquance, qui, pour favoriser la lecture des uns et des autres, ont été votées le même jour. Voilà. Par ailleurs, y a 2 textes, on va les regarder, qui effectivement permettent, autorisent le partage d'informations à caractère secret, mais il y a tout un tas de dispositifs où il n'y a rien de prévu légalement autour du partage d'informations. Je pense en particulier au dispositif de réussite éducative qui sera abordé dans une des tables rondes, qui nécessite de fait, autour de la situation des jeunes ou des élèves concernés, du partage d'informations. Alors, il y a des chartes déontologiques, il y a des chartes de confidentialité, donc on verra ça dans le cadre de cette journée, sachant que les chartes n'ont aucune valeur juridique. Alors, sur le plan juridique aussi, les textes de 2007, ils ont comme objectif de dire que pour travailler ensemble, il y a nécessité de partager des informations confidentielles. Pour autant, du coup, on lève le secret professionnel, mais pour autant, cette exception qui est légale, puisque c'est la loi, elle ne figure pas dans le code pénal. C'est-à-dire, nulle part dans le code pénal, on vous dit que vous avez le droit de partager des informations confidentielles. Hein ? Donc on voit déjà là une première question qui se pose. Ensuite, il y a eu pas mal d'événements, je ne vais pas les rappeler dans le détail, vous retrouvez pas mal de choses sur le site de l'ANAS. Il y a eu beaucoup d'événements liés en particulier à l'aide au séjour irrégulier. ces questions-là autour de l'immigration, des sans-papiers, etc., sont des questions qui sont aussi fondamentales pour nous et pour le travail d'un certain nombre de nos collègues. Donc, il y a eu interpellation, garde à vue d'intervenants sociaux à plusieurs reprises et garde à vue d'intervenants qui ont respecté le secret professionnel. Donc, vous avez eu plusieurs affaires à Belfort, vous avez eu des affaires pour des travailleurs sociaux qui intervenaient pour France Terre d'Asile, et suite à tout ça, la commission éthique et déontologie du Conseil supérieur travail social, face à la multiplication d'incidents, donc a voté en juin 2008 un avis sur cette question en commission plénière, qui a été remis à Madame Létard, qui est secrétaire d'État chargée de la solidarité. Donc cet avis du Conseil supérieur en travail social, vous l'avez dans votre dossier, ce qui vous permet aussi de vous appuyer sur ces éléments-là, puisque c'est quand même une instance qui a une parole sur les pratiques en matière d'intervention sociale. Alors à l'inverse, en juin 2008, il y a une assistante de service social qui était en charge d'une mesure d'AMO et qui, elle, a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est allée de son propre chef et de sa propre initiative dénoncer une personne de son papier à la police. Hein. Donc, il y a eu pas mal d'articles dans Le Monde. Vous avez aussi beaucoup d'analyses sur un certain nombre de sites Internet. Et elle peut être poursuivie pour non-respect du secret professionnel. Donc, on voit qu'on est sur une question qui est complexe, sur une question qui n'est pas que juridique, mais qui est aussi une question déontologique et une question éthique. Et vous avez aussi dans votre dossier, puis après j'arrête de parler du dossier, les principes qui ont déontologiques et éthiques qui ont été édictés par la Fédération internationale du travail social, la FITS, et auxquels aussi vous pouvez aller vous référer. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder les repères qui existent autour du code pénal dans le secret professionnel et ensuite les principaux éléments qui sont dans les lois de mars 2007 et puis j'évoquerai un certain nombre de questions qui seront à travailler parce que l'objet des tables rondes est justement de mettre la focale sur telle ou telle question et de l'éclairer et surtout d'échanger sur la difficulté que rencontrent les professionnels pour mettre en œuvre toutes ces dispositions qui sont par définition difficiles à lire. Alors, premier élément, le secret professionnel. Donc ça fait pas de mal de faire quelques rappels. Le secret professionnel, il est d'ordre public et comme l'a dit Guy tout à l'heure, son utilité, c'est de crédibiliser un certain nombre de fonctions sociales parce qu'il y a des professions qu'ils ne peuvent s'exercer qu'avec la confiance des usagers, la confiance des personnes. Mais c'est aussi une protection des usagers de leur vie privée et de leur intimité. Pour aller jusqu'au bout sur les questions qui se posent dans le secret professionnel, il y a une question qui est-ce que ce secret professionnel, il aurait un fondement contractuel ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait contractualiser avec l'usager qui peut nous délivrer de cette obligation du secret professionnel ? Alors là, il y a plusieurs doctrines juridiques qui s'affrontent, puisqu'il y en a certains, alors Pierre Calloc, par exemple, qui est magistrat, il s'appuie sur la loi du 4 mars 2002 qui est relative aux droits des malades. Et dans cette loi, il est dit que la divulgation d'une information confidentielle devient licite lorsqu'elle est autorisée par la personne concernée elle-même. Ça, c'est dans la loi relative aux droits des malades. Alors pour lui il dit, c'est évident, chacun est libre de dévoiler ou pas des éléments de sa vie privée. Et pour d'autres, des gens comme Pierre Verdier, mais une majorité de juristes, la majorité des auteurs disent, le secret professionnel, il est d'ordre public, par conséquent, l'usager ne peut pas vous en délivrer. Donc on voit là qu'il y a quand même débat, mais même s'il y a une doctrine majoritaire, il y a un débat autour de cette affaire-là. La violation du secret professionnel, c'est une infraction pénale, c'est un délit qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors, ce délit, il est prévu à l'article 226-13 du Code pénal, donc je ne vais pas vous en faire la lecture, parce que vous l'avez sous les yeux. Alors, Il y a des lits à quel moment ? Il y a trois éléments pour constituer cette infraction. Il faut d'abord qu'il y ait de l'information à caractère secret. Ensuite, il faut que cette information elle soit révélée et qu'elle soit révélée par une personne qui est dépositaire de ce secret professionnel. Donc déjà, trois éléments à balayer. Premier élément, une information à caractère secret, c'est quoi ? Déjà pas si simple quand on commence à poser la question. Donc ce sont les informations concernant la personne et sa vie privée au sens large. C'est pas dans l'ancien code pénal, on parlait des confidences. Dans le nouveau code pénal, on ne parle plus de confidences. Hein, ce n'est pas les confidences reçues, c'est les informations qu'on connaît sur la personne, soit parce qu'elle nous en du fait de l'exercice de notre profession, soit parce qu'elle nous en a fait part, mais c'est aussi l'information qu'on a pu découvrir soi-même pas en faisant un diagnostic. Je prends un exemple. Monsieur X est en situation d'alcoolisme régulièrement. Pas obligatoire que Monsieur X vous ait parlé de ses problèmes avec l'alcool. Vous avez très bien pu, vous, le deviner dans l'exercice de votre métier. Donc ça aussi, c'est soumis au secret professionnel. La révélation, ça veut dire mettre en lumière. Ça veut dire qu'on a parlé, qu'on a dit ou qu'on a laissé deviner. Et prenons un exemple. Il est de notoriété publique que Monsieur X s'alcoolise régulièrement. Tout le monde le sait. Ben, c'est souvent comme ça. Hein. Sauf que si vous, professionnel, soumis au secret professionnel, vous confirmez cette situation, eh bien, vous pouvez être poursuivi pour violation du secret professionnel, même si c'est un fait de notoriété publique. C'est votre confirmation qui peut faire que vous pouvez être poursuivi. Donc, on a une information secrète qui est révélée par une personne dépositaire. Alors là, ça se complique et je ne vais pas vous faire la liste. Il faut aussi que je mette ma montre parce que comme c'est un peu compliqué comme intervention, il ne faut pas que je dure trop. Alors, d'abord par profession. Alors, dans les métiers du travail social, la seule profession qui est soumise au secret professionnel, ce sont les assistants de services sociaux et les étudiants des écoles. Dans le Code de l'action sociale et des familles, c'est le seul métier du travail social. Ensuite, il y a les médecins, les sages-femmes, etc. Les autres professionnels de l'action sociale, éducateurs spécialisés, conseillers USF, assistants familiaux, etc., et même les psychologues, ne sont pas tenus au secret professionnel du fait de leur profession. Ça, c'est clair. Par contre, ils peuvent l'être, et c'est là où il faut toujours, pour savoir si on est soumis au secret professionnel ou pas, avoir une analyse élargie, ils peuvent l'être en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est dans votre dossier. Exemple, toutes les personnes qui interviennent dans le cadre du RMI, et c'est la loi sur le RMI, hein, l'instruction des demandes, l'attribution, la mise en œuvre du contrat, sont soumises au secret professionnel. Donc si vous êtes éducateur spécialisé, par exemple, vous ne l'êtes pas du fait de votre métier, mais si vous intervenez sur le champ du RMI, vous l'êtes du fait de la mission que vous avez. C'est la même chose dans le cadre de la protection de l'enfance. Les personnes qui participent à la mission de protection de l'enfance, donc ce n'est pas simplement les gens des services de l'ASE du Conseil général. C'est ceux qui participent. Vous êtes éducateur dans une MEX qui concourt à la mission de protection de l'enfance. Vous êtes soumis au secret professionnel. Et puis ensuite, je ne vais pas vous faire toute la liste. Par exemple, les membres de commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, l'équipe pluridisciplinaire, le coordonnateur qui est désigné par le maire, on y reviendra tout à l'heure, dans le cadre de la loi relative à la prévention de la délinquance. Donc vous avez là toute une liste. Il y a aussi d'autres codes qui soumettent d'autres professionnels, par exemple la PMI, les gens qui interviennent dans le cadre de la protection maternelle et infantile, sont soumis à la protection, au secret professionnel, mais par un autre code. Donc c'est complexe parce que, à part l'assistant de service social, tous les autres, pour savoir si vous êtes soumis au secret professionnel ou pas, il faut aller regarder dans tous les autres textes qui peuvent exister si oui ou non vous êtes dans ce cadre-là. Alors, ensuite, les fonctionnaires, ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal et ils ont de plus une obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents, les faits qu'ils connaissent dans le cadre de leur métier. Alors, contrairement à l'obligation qui est faite à tous les citoyens ou à ceux qui ne sont soumis qu'à une obligation de discrétion, les personnes qui sont soumises au secret professionnel sont exceptées d'un certain nombre de choses. Alors, par exemple, article 434.1, elles sont dispensées d'informer les autorités des crimes et de témoigner. Si vous êtes soumis au secret professionnel, vous n'avez pas, mais vous verrez plus loin que ça se complique, hein, donc essayons d'être, de suivre. Donc, vous êtes soumis au secret professionnel. Si vous avez connaissance d'un crime, hein, dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, etc., vous n'avez pas, contrairement à tous les autres, à prévenir les autorités judiciaires ou administratives. Les personnes soumises au secret professionnel sont aussi dispensées d'informer dans les cas de mauvais traitement, sauf quand la loi en dispose autrement, on va y revenir. Hein, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas tenues au secret professionnel doivent, si elles ont connaissance de privation, de mauvais traitement, d'atteinte sexuelle infligée à mineurs de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, etc., en raison de son âge, de son état de santé, etc., doivent informer les autorités judiciaires ou administratives. Ce n'est pas une obligation pour les gens qui sont soumis au secret professionnel. Par contre, les personnes qui sont soumises au secret professionnel, donc on voit que ça se renverse, elles ne peuvent pas être poursuivies si elles parlent, uniquement dans certains cas prévus par la loi. Vous êtes soumis au secret professionnel, vous n'avez pas le droit de parler. Par contre, la loi prévoit un certain nombre d'exceptions qui vous autorisent à parler et surtout qui font qu'on ne peut pas vous poursuivre. Donc, ces exceptions, c'est quoi ? C'est en cas de mandat judiciaire, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans un service où il est mandaté par un juge des enfants, par exemple, ou mandaté par un juge, dans la limite du mandat, ne peut pas dire au magistrat « je suis soumis au secret professionnel ». Ça, ce n'est pas possible. Ensuite, autre exception, si vous informez effectivement les autorités de privation, de sévices, d'atteinte, de mutilations sexuelles qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, si vous parlez, vous ne pouvez pas être poursuivi pour violation du secret professionnel. Vous n'êtes pas obligé de parler, ça aura une limite un peu plus tard, vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous parlez, on ne pourra pas vous poursuivre. Ça va ? Bon. Alors, bien sûr, dans les cas où la personne qui est soumise au secret professionnel a la liberté de parler, on ne peut pas la poursuivre. Par contre, elle a quand même un certain nombre de limites, hein, parce que ça veut dire que je suis soumise au secret professionnel, je parle ou je ne parle pas, ça m'appartient. Si je parle dans certains cas, on ne me poursuivra pas, mais ça m'appartient à moi de savoir si je parle ou si je ne parle pas, puisque la responsabilité pénale est individuelle, ce n'est pas votre institution ou votre employeur. Hein, la responsabilité pénale, c'est vous-même. Cette liberté, elle a deux limites. La première limite, c'est l'obligation de signalement dans certains cas, l'article 221.6 du Code de l'action sociale et des familles. Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel, mais elle est tenue de transmettre sans délai au président du Conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leurs familles peuvent bénéficier. Donc ça, c'est une obligation de signalement. Même si vous êtes soumis au secret professionnel, vous êtes obligé de signaler. Les mineurs, alors c'est ceux qui sont dans le chapitre sur la protection hein, des mineurs maltraités. Et deuxième limite à tout ça,
C'est l'obligation générale de porter secours. Cette obligation générale de porter secours, elle s'adresse à tout citoyen. C'est pas de même nature. S'il y a un péril grave ou un danger imminent, je dois, même si je suis travailleur social soumis au secret professionnel, j'ai une obligation de porter secours qui vaut d'ailleurs cher, hein, parce que si vous portez pas secours, c'est 5 fois plus cher que de... c'est 45 000 euros, 75 000 euros. C'est 5 fois plus cher de ne pas porter secours plutôt que de rompre le secret professionnel. Hein, voilà. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Simplement, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on peut tout à fait respecter cette obligation de porter secours sans pour autant remettre en cause le secret professionnel. On peut tout à fait signaler que quelqu'un là risque d'être tué ou risque d'être victime de choses extrêmement graves. Hein. On parle un crime, un délit contre l'intégrité corporelle de la personne. Hein. On parle bien de ça. C'est donc quelque chose d'extrêmement grave et on peut porter secours sans pour autant dénoncer et rompre le secret professionnel. Est-ce que ça va rapidement pour le cadrage du code pénal ? On a fait le choix, hein, quand on a préparé cette journée, de vous infliger ça en début de matinée, parce que c'est absolument nécessaire à l'exercice de votre métier, parce qu'on voit que ça se perd vite, quoi, quand on est au boulot, et que ces références-là, il faut toujours les remettre sur le tapis. Alors, ça, c'était très rapidement posé, la situation avant les votes des lois du 5 mars 2007. Alors, le 5 mars 2007, les textes ont fait voter beaucoup, ont fait couler, pardon, beaucoup d'encre, en particulier le texte relatif à la prévention de la délinquance. Alors, qu'est-ce que ces lois ont apporté ? Alors, il y en a qui parlent de secret professionnel partagé. Moi, personnellement, et à force de lire sur cette question et pour éviter de créer de la confusion, moi, je préfère parler de la possibilité qui est donnée aux professionnels de partager des informations à caractère secret. C'est vous, Monsieur le Président, qui disait un secret partagé, c'est plus un secret, quoi. Hein. Donc, du coup, je crois que les termes sont importants et de dire que ces lois nous autorisent à partager un certain nombre d'informations à caractère secret, parce que la notion de secret partagé, elle est nulle part dans le code pénal. Hein. Elle n'existe pas dans le code pénal. Alors, que nous amènent ces textes ? Alors, le premier texte, c'est le texte dans le cadre de la protection de l'enfance. Je trouve qu'il est plutôt sécurisant pour les professionnels. Parce que tout le monde sait pertinemment qu'il y a fort longtemps que professionnellement et entre professionnels, on partage de l'information. Bien longtemps qu'on fait ce travail-là de partage d'informations. Et peut-être que c'était intéressant que cette loi vienne nous donner un cadre à ce partage d'informations. Alors ce cadre, quel est-il ? Vous avez d'abord un premier article qui est important, c'est principalement la création de l'article 226.2.2 du Code de l'action sociale et des familles. Donc je vous laisserai le lire, vous l'avez en référence. Cet article, il autorise et il encadre ce partage d'informations. Et ce qui est important, c'est qu'il ne crée pas d'obligation. Donc on en reparlera tout à l'heure. Ça veut dire que c'est la responsabilité du professionnel de savoir ou d'apprécier s'il doit partager des informations ou pas, et lesquelles. On va voir que tous ces textes renvoient beaucoup à la responsabilité du professionnel. Alors, dans cet article, on a un certain nombre de précisions. Les personnes concernées, c'est qui ? C'est pas tout le monde qui est autorisé à partager de l'information. C'est pas tout le monde. Ce sont les personnes, les professionnels qui sont déjà soumis au secret professionnel, que ce soit du fait de leur profession ou du fait de leur mission de protection de l'enfance. Ça va ? Et le ministère a sorti un guide pratique en 2007 sur la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des enfants en danger. C'est fou. Et ce guide, il distingue bien deux choses. Il distingue les professionnels qui participent au traitement de l'information préoccupante. Alors là, je vous dis tout de suite, je ne parlerai pas moi de l'information préoccupante parce que ce qui pose problème dans ce texte, c'est surtout l'information préoccupante. C'est quoi une information préoccupante? À partir de quand c'est une information préoccupante? Donc là, il y a un travail très important à faire sur ce sujet-là qui est en cours. L'ANAS vient d'ailleurs de publier quelque chose dans les ASH de la semaine dernière. Donc il y a ceux qui participent au traitement de cette information qu'ils recueillent, hein, qu'ils effectuent l'évaluation de la situation de l'enfant, qu'ils donnent leur avis, qu'ils décident, qu'ils évaluent. Ceux-là, ils sont soumis au secret professionnel. Ils peuvent partager de l'information, pardon. Par contre, les personnes qui peuvent être amenées à amener ces informations préoccupantes, hein, ça peut être un éducateur de jeunes enfants, un enseignant, un bénévole, etc., ceux-là ne sont pas autorisés au partage de l'information. Ils transmettent de l'information, mais ils n'ont pas à être associés au partage des informations confidentielles. Donc on voit que cette complication, hein, je vous disais, de l'information préoccupante sur laquelle je ne viendrai pas, hein, qui est aussi l'article suivant, cet article suivant, il nous indique un certain nombre de choses. Nous sommes autorisés, dans certaines circonstances, à partager de l'information, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Donc déjà, on a vu les personnes concernées, c'est pas n'importe qui. Ensuite, pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on nous indique effectivement qu'il y a des objectifs précis au partage d'informations. Et plus vous serez clair sur les objectifs, plus ça sera simple pour vous de savoir ce que vous allez partager ou pas. Ces objectifs, ils sont de permettre l'évaluation de la situation individuelle, de la situation du mineur qui est concerné par l'information. Et ensuite, de déterminer et mettre en œuvre les actions de protection et d'aide pour le mineur et sa famille. Donc, c'est des objectifs précis. Et ensuite, les limites, c'est strictement limité, et je crois que ça, il faut qu'on en fasse une règle. On a des objectifs dans le partage de l'information, et ces objectifs doivent être limités à ce qu'implique la mission pour laquelle on partage de l'information. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur la nature des informations qu'on va partager et qu'on définisse les modalités de ce partage. Qu'est-ce qu'on va dire ou ne pas dire qui est nécessaire à l'exercice de cette mission? Ça ne veut pas dire raconter tout sur tout, sur les personnes et leur situation. C'est sur ce qui est véritablement nécessaire. Et ensuite, ce qui est très important dans la loi réformant la protection de l'enfance et qui n'existe pas dans la loi de prévention de la délinquance, c'est l'information préalable des représentants légaux. C'est-à-dire que les familles sont, sauf contraire intérêt de l'enfant, informées de ce partage d'informations et sont à chaque fois sollicitées, si possible, pour y être associées et donner leur consentement. Ça, ça n'existe pas dans la loi qui est relative à la prévention de la délinquance. C'est une obligation, sauf intérêt de l'enfant, c'est une obligation dans le cadre de la protection de l'enfance. Ça va? Alors, vous devez être au clair sur ces éléments-là, parce que si dans le cadre de la protection de l'enfance, finalement, on donne, comment on va dire, un cadre légal à des pratiques existantes, hein, on peut le dire sous cette forme-là, c'est vrai que le vote le même jour de la loi sur la prévention de la délinquance, lui, il a plutôt fait surgir, et à juste titre, de nombreuses craintes, et il est venu vraiment complexifier un paysage qui est devenu quelque peu difficile à lire.
On va pas dire, mais simplement, je voudrais dire par rapport à la comparaison qui est faite, c'est qu'en ce qui concerne la loi sur la protection de l'enfance, elle a fait l'objet de multiples débats entre le national et le local. Et on a, sur le département d'Isère, organisé plusieurs réunions de travail. Notamment, on a fortement insisté sur l'information aux familles. Donc je crois que c'est important de souligner ça parce que c'est aussi une loi peut-être issue d'une forte concertation et d'une forte consultation, ou comme vous allez le voir maintenant, elle est issue peut-être d'autre chose.
Merci José pour cette précision, parce que c'est tout à fait vrai. Je pense que le contexte d'élaboration de ces deux lois est très différent dans un cas et dans l'autre. Alors, dans le cadre de la protection de l'enfance, l'hostilité des travailleurs sociaux, des psychiatres, vous savez que ce qui était prévu au départ concernant la psychiatrie a été retiré de ce texte, mais enfin ça revient par d'autres... Oui, par d'autres biais, c'est la place qui est donnée au maire et la remise en cause du secret professionnel. Alors, ce texte, il est complexe parce qu'il prévoit l'information et l'intervention du maire. Alors, pour accroître l'efficacité et assurer la continuité de l'action sociale. Du coup, déjà là, ce qui pose question, c'est comment s'articulent les relations entre un maire qui est là pour la prévention de la délinquance et un conseil général qui est chef de file de l'action sociale. C'est-à-dire qu'on voit là un brouillage entre la prévention de la délinquance et l'action sociale. Alors, c'est une loi qui affirme des objectifs de prévention de la délinquance, mais qui en même temps dit il faut que l'action sociale soit plus efficace. Ce qui, si on fait un raccourci, voudrait peut-être dire que si l'action sociale était plus efficace ou efficiente, il y aurait peut-être moins de délinquants. Je vous laisse réfléchir à la question. Donc, et la circulaire du 9 mai 2007, qui est très importante pour vous, elle appuie sur ce sujet-là, puisqu'elle dit que c'est un moyen de faciliter la mise en œuvre de l'action sociale. Alors, c'est vrai que plus personne sait où on en est par rapport à ce texte, parce que quels sont ses objectifs? Quelles sont ses finalités? Prévenir de la délinquance ou améliorer la finalité de l'action sociale? Alors, la circulaire dit que c'est dans l'intérêt des personnes et des familles, et tout en gardant des garanties de confidentialité sur les informations à caractère personnel, donner une plus grande cohérence aux interventions de nature et d'origine multiples que rendent nécessaires les situations d'une gravité particulière. Bon. Ce dispositif, il est fondé sur trois principes, dit la circulaire. Le respect de la déontologie et des modes d'intervention des professionnels de l'action sociale. Donc c'est important de s'appuyer et d'être au clair sur les références déontologiques de nos métiers. C'est respecter la vie privée, mais rechercher une meilleure efficacité de l'action sociale. Et c'est respecter les compétences confiées par la loi aux différentes collectivités. Alors, l'article, comme c'est assez complexe à décrypter, vous verrez que l'article, enfin vous voyez dans votre dossier que l'article du Code de l'action sociale et des familles qui est issu de cette loi est copieux. Donc moi, je vais vous donner juste un peu quelques éléments sur lesquels il intervient. Donc cet article, il précise aussi les personnes concernées. Donc les personnes concernées, ce sont les professionnels de l'action sociale, donc en référence à la définition de l'action sociale qui est dans le même code. Alors ça fait quand même pas mal de monde. Il y a des précisions aussi dans la circulaire. Donc, c'est les travailleurs sociaux qui sont chargés de l'accompagnement ou du suivi des personnes en difficulté, donc assistants sociaux, éducateurs, conseillers USF, TISF, aide à domicile, voyez, c'est du monde. Les médiateurs sociaux en contact direct avec les personnes, donc vous voyez comme moi, comme médiateur social, c'est pas un métier, on peut mettre sous cette appellation tout un tas de médiateurs, y compris, j'ai lu dans la circulaire, les agents de médiation sociale et culturelle, les femmes relais, les agents d'ambiance, etc. Et puis les autres professionnels de l'action sociale qui interviennent auprès des familles, comme les assistants maternels qui peuvent être amenés à connaître des situations difficiles, etc. Alors ça veut dire que c'est une liste assez impressionnante de personnes qui sont concernées et qui devraient remettre un certain nombre d'informations dans des situations de difficulté. Alors ces situations, c'est quoi? Le texte dit « tout professionnel », donc ceux qu'on vient de voir, « intervenant auprès d'une personne ou d'une famille, informe le maire de la commune et le président du conseil général, lorsque l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels. » Je ne voudrais pas dire que ça doit faire pratiquement toutes les personnes que vous suivez. Si on faisait un sondage, c'est très large. Et ensuite, ce qui est complexe, on parle de la notion d'aggravation et pas de gravité. Mais l'aggravation de quoi ? L'aggravation de quoi ? Et c'est le professionnel qui apprécie s'il informe ou non, quoi. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider s'il y a une aggravation. En même temps, s'il informe pas et qu'il y a une situation qui va très très mal, qu'est-ce qui se passe s'il a rien fait ? Là, c'est pour le coup l'inconnu, y compris en termes de jurisprudence au jour d'aujourd'hui sur ces questions-là. Donc on voit que c'est toute une grande part des populations qui sont en situation de vulnérabilité sociale, on va dire, hein, pour faire vite, qui peut être touchée par ce texte-là. Ensuite, le maire désigne parmi les professionnels un coordonnateur lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire. Donc qui va évaluer qu'il y a nécessité de désigner un coordonnateur. Alors, contrairement à ce qu'ont cru certains maires, il y a certains maires qui se sont mis à embaucher des coordonnateurs spécifiques. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quelques-uns qui ont foncé sur la fonction. Ils ont mal lu la loi. Parce que le maire, il n'a pas à embaucher un coordonnateur pour s'occuper de ces situations-là. Le maire, il doit nommer un coordonnateur qui est obligatoirement un des professionnels qui intervient dans la situation. C'est pas pareil de dire il y a plusieurs professionnels qui interviennent dans cette situation qui s'aggrave. J'en nomme un responsable de la coordination des interventions que d'aller embaucher sur sa commune un coordonnateur qui coordonnerait pour toutes les interventions. C'est pas de même nature. Et la loi, elle est claire là-dessus. Donc le maire qui embauche un coordonnateur pour faire ce travail-là, spécifique, il n'est pas en conformité avec la loi. Alors ensuite, la désignation, je vous ai mis deux petits carrés, c'est pas si simple, c'est une véritable usine à gaz. Parce que le maire, il doit désigner un coordonnateur, mais comme c'est un professionnel qui intervient déjà, il doit effectivement avoir l'accord de l'employeur, de l'autorité dont relève ce professionnel. Donc vous voyez que c'est une mise en route de circuits relativement complexes. Donc je ne sais pas si ça viendra dans les tables rondes, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit très au clair avec tout ça 2 ans après. Ensuite, le partage d'informations, il est autorisé. Donc ça, c'est aussi un élément important parce qu'il y a des modalités, des objectifs. Donc il est autorisé à partir du moment où on intervient auprès d'une même personne ou d'une même famille et le coordonnateur, il est de fait aussi soumis au secret professionnel. Ça, c'est un premier point. Les objectifs, c'est comme pour la protection de l'enfance, c'est évaluer une situation et décider des mesures d'action sociale nécessaires. Et les limites, là aussi, c'est pareil, ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas d'information préalable des personnes qui est prévue dans le texte. Et ça, c'est la grosse différence entre ces deux textes. Alors, ma foi, cet échange s'inscrit dans la pratique professionnelle, donc c'est aux professionnels d'apprécier aussi les circonstances. On renvoie aux professionnels la responsabilité d'informer éventuellement les personnes. Donc la position de l'ANAS, c'est aussi la mienne, elle est assez claire, c'est que sur le plan éthique et déontologique, il est évident qu'il n'est pas question de signaler au maire ou de transmettre de l'information si on n'a pas recherché quand même l'accord des personnes qui sont concernées et si on ne les a pas informées, c'est un minimum dans la confiance établie et c'est un minimum par rapport aux règles déontologiques de nos métiers. Et enfin, ce coordonnateur, il peut transmettre au maire ou au président du conseil général des informations confidentielles nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Première question, On ne sait pas trop, parce que le texte dit le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul. Alors, le professionnel intervenant seul, on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est une première question. Et la deuxième, c'est qu'on peut quand même avoir des questions sur les garanties du respect de la vie privée des personnes. Alors, la réponse est donnée dans la circulaire. Le maire et le président du conseil général et les adjoints et les vice-présidents désignés par eux sont soumis au secret professionnel aussi. C'est-à-dire que les élus qui sont en responsabilité de ces secteurs-là sont soumis au secret professionnel. Hein, c'est le code général des collectivités territoriales. Donc, moi, j'ai envie de rappeler simplement d'abord l'article 9 du Code civil, vous savez, celui qui permet aux people de poursuivre les paparazzi et de gagner de l'argent. C'est chacun a droit au respect de sa vie privée. Déjà. Ensuite, on peut donc se dire que si chacun a droit au respect de sa vie privée, je crois qu'il faut rester extrêmement prudent sur effectivement les informations que l'on partage, j'allais dire le risque entre professionnels eux-mêmes soumis au secret est limité si on sait cadrer ce qu'on raconte. Vous savez, autour des cafetières, parfois on en raconte plus sur les personnes que ce qu'on dit dans certaines réunions. Donc méfiez-vous des cafetières, des réunions d'équipe, des repas, etc. Et c'est pas tout à fait la même chose, le travail en équipe où on va partager un certain nombre d'informations, que effectivement la transmission au maire et au président du conseil général. Alors la transmission dans la limite de leurs compétences, mais on voit bien que c'est très flou. On voit bien que c'est très très flou parce qu'il y en a un qui est compétent sur la prévention de la délinquance, l'autre qui est chef de file de l'action sociale, et qu'au milieu de tout ça, la loi de prévention de la délinquance mélange les deux objectifs et n'est pas faite pour amener de la clarification sur les compétences. Alors, tout ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il y a une loi sur la prévention de la délinquance. On verra dans les tables rondes ce qui ressortira, mais visiblement, ce texte qui est arrivé comme ça, qui n'a pas du tout été ni concerté, ni discuté avec les élus, est peu mis en œuvre. Et il est peu mis en œuvre aussi parce que les maires qui devraient présider le Conseil pour les droits et les devoirs des familles, conseil qui est très peu mis en place en France, hein, d'après les recherches que nous avons pu faire avec Frédéric, je crois pas que les maires se soient précipités, pour la plupart d'entre eux, et quel que soit leur bord politique, se soit précipité sur ce texte, parce que faire le shérif des familles pour un élu, c'est pas si simple que ça en a l'air. Voilà, donc je voudrais terminer sur quelques questions comme ça pour la pratique, et puis voilà, ces lois de 2007 et en particulier la loi pour la protection de l'enfance, je trouve qu'elles ont un intérêt, c'est qu'elles ne changent rien à ce qui est institué par le code pénal, mais elles vous permettent d'avoir un cadre. Alors, ce qui est clair, c'est que la loi sur la prévention de la délinquance, avec l'aggravation des difficultés sociales et matérielles, etc., moi, ça me paraît vraiment extrêmement flou. Et ensuite, on voit que se renvoie en permanence à la responsabilité du professionnel de parler, de savoir s'il va parler ou pas, ce qu'il va dire, comment il va le dire, me fait dire quand même que pour clarifier tout ça, il y a les textes, il y a donc les textes, il faut les connaître, il faut connaître la hiérarchie des normes aussi. Et puis après, il y a la déontologie professionnelle et puis il y a l'éthique personnelle. Mais en même temps, me semble-t-il, il faut se souvenir que la loi du 2 janvier 2002, hein, qui définit les droits garantis aux usagers dans les institutions sociales et médico-sociales, garantit en particulier comme droit la confidentialité des informations les concernant. Et je pense que véritablement, nous devons être extrêmement prudents et qu'on ne peut pas laisser les professionnels seuls dans leur coin, à savoir si oui ou non ils vont donner de l'info, à apprécier, etc. Donc moi je pense que il faut impérativement qu'on restructure des lieux qui sont en voie de disparition. Alors ça, c'est la directrice de l'IFTS qui parle. Hein, c'est-à-dire que l'idéologie de la gestion hein, qui nous pressurise et qui pressurise tous les dispositifs fait que ce soit les professionnels ou les cadres, tout le monde est engagé dans le même bateau. Or, vous ne pouvez pas travailler sur ces questions-là s'il n'y a pas une réflexion qui est un peu permanente, s'il n'y a pas une réflexion non pas simplement sur le comment faire, mais aussi sur les finalités de ce qu'on a à faire. Hein. Trop souvent, on est dans les modalités, les procédures. Vous ne pouvez pas donner sens si vous ne réfléchissez pas aux modalités. Et surtout, si on ne recrée pas un certain nombre de lieux, alors les appelez bien comme vous voulez, de l'analyse, de la pratique, des lieux de réflexion professionnelle, technique, peu importe, moi je ne sais pas comment il faut les appeler, mais je pense qu'on ne peut pas laisser les professionnels seuls en face de ces questions-là. Ensuite, il faut se donner les moyens d'assumer ses responsabilités. C'est-à-dire comment on entretient ses compétences, comment on se forme. Vous savez, se former, ça ne veut pas forcément dire aller en stage. Hein. C'est lire, c'est avoir des échanges, etc. On se forme tous les jours. Et vous savez que la formation est aujourd'hui inscrite dans le Code du travail sous le terme de la formation tout au long de la vie. Et je crois que dans nos secteurs, c'est essentiel dans tous les secteurs. Et dans le travail social, on n'est pas à part de ça. Vous avez vu l'ensemble des textes, des changements permanents hein, qu'il y a dans notre secteur. Donc cette question de la formation tout au long de la vie, elle est essentielle. Et puis préciser aussi, alors j'en ai un peu plus sur mon écrit, vous irez le lire sur Internet si vous voulez, hein, les modalités que vous mettez en place dans vos organisations pour gérer l'information, comment on la recueille, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'archive, qu'est-ce qu'on écrit, toute la question des dossiers. Méfiez-vous des supports, les mails aujourd'hui c'est d'une facilité extraordinaire, etc. Donc re-questionnez tout ça. Et je pense que si c'est de la responsabilité, autant des cadres et des responsables que des professionnels. Et j'ai envie de dire, si le travail social doit être le dernier poil à gratter du respect des personnes et des humains, allez-y, faites le poil à gratter.